Mathias Sénard.
Exploration des moteurs, des engrenages de la littérature d'aujourd'hui. Écoutons le concert des bielles de la fiction, les pistons du récit. Tour à tour autrice, traducteur, mais aussi dessinatrice ou scénariste de bande dessinée nous font visiter leur salle des machines. Nous ouvrent le capot de leurs livres et nous expliquent comment elles et ils plongent les mains dans le cambouis. De quelle façon on met à la voile, ou même, de temps en temps, à la rame. Comme disait Blaise Cendrars à bord du paquebot Normandie, je les verrai à l'œuvre dans les fonds, les soutiers, les huileurs, les graisseurs, les mécanos, tous les gars de la machine. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la salle des machines. Aujourd'hui, une émission mélancolique, endeuillée, amoureuse et profondément littéraire. La formidable Sarah Chiche nous parlera de son Sélène Saturne. Puis notre caillou dans les poches célébrera les 50 ans de la disparition de Jean Giono. Nous recevrons ensuite Victor Pouchet, dont le roman Autoportrait en chevreuil figure dans la sélection L'Obs France Culture. Et enfin, c'est Laure Gourège, autrice de La fille du père, qui lancera son message à la salle des machines.
Nous sommes ce que nous ne sommes pas. La vie est brève et triste. Le bruit des vagues, la nuit, est celui de la nuit même. Et combien l'ont entendu retentir au fond de leur âme, tel l'espoir qui se brise perpétuellement dans l'obscurité, avec un bruit sourd d'écume résonnant dans les profondeurs. Combien de larmes pleurées par ceux qui obtenaient. Combien de larmes perdues par ceux qui réussissaient. Et tout cela, durant ma promenade au bord de la mer, est devenu pour moi le secret de la nuit et la confidence de l'abîme. Que nous sommes nombreux à vivre, nombreux à nous leurrer. Quelle mer résonne au fond de nous, dans cette nuit d'exister, sur ces plages que nous nous sentons être envahis par l'émotion. Ce que l'on a perdu, ce que l'on aurait dû vouloir, ce que l'on a obtenu et gagné par erreur, ce que nous avons aimé pour le perdre ensuite, en constatant alors, après l'avoir perdu, et l'aimant pour cela même, que tout d'abord nous ne l'aimions pas. Ce que nous nous imaginions penser alors que nous sentions, ce qui était un souvenir alors que nous croyions à une émotion, et l'océan tout entier arrivant frais et sonore du vaste fond de la nuit tout entière écumait délicatement sur la grève, tandis que se déroulait ma promenade nocturne au bord de la mer.
Bienvenue Sarah Chiche. Qu'est-ce que vous évoque ces mots de Fernando Pessoa de la grande ode maritime d'Alvaro de Campos, lu par la non moins grande Judith Magre?
Je suis très heureuse d'avoir reconnu Fernando Pessoa. Ça évoque la nuit du monde et la nuit qui gît en chacun d'entre nous. Cette nuit après laquelle nous ne cessons de courir et que nous fuyons en même temps, oui.
Sarah Chiche, vous êtes psychanalyste et écrivaine, autrice d'essais comme Personne autour de Fernando Pessoa, justement aux éditions Cécile Defaux, ou Une histoire érotique de la psychanalyse chez Payot, et de quatre romans dont l'avant-dernier, avant donc ce Sélène Saturne dont nous parlons aujourd'hui, paru déjà aux éditions du Seuil en 2019, Les Enténébrés, avait reçu le prix de la Closerie des Lilas. Aujourd'hui, Saturne est en lice pour de nombreux prix et il en a déjà obtenu un, le prix du roman News, ce qui augure une vendange de récompenses automnales pour ce beau roman ténébreux. Sarah Chiche, la première question que je souhaitais vous poser, c'est qu'est-ce que signifie pour vous le mot autobiographique? Et plus précisément l'expression roman autobiographique.
Pour moi, dans mon écriture, cela ne veut pas dire grand-chose, je ne m'y reconnais pas. Il y a certes parfois un jeu qui traverse mes textes, mais pour autant c'est un jeu tout à fait désubjectivé, c'est un jeu qui est toujours absent à soi. La seule chose qui compte pour moi, c'est de trouver une forme, une structure, la structure la plus précise possible pour atteindre la note la plus juste possible pour raconter des histoires. Donc au fond, quand on me dit « Oh, je suis très émue par votre histoire », je regarde les gens avec beaucoup de perplexité parce que ce n'est pas mon histoire. Saturne, c'est l'histoire de nos deuils, c'est l'histoire de nos mondes perdus, c'est l'histoire des fictions que l'on se raconte pour continuer à pousser, continuer à grandir. Quand on est hanté par le deuil, ça n'est certainement pas mon histoire. Je ne revendique rien, je ne recherche rien, à part la simplicité d'une certaine écriture ou d'une forme.
Il y a néanmoins un matériau à partir duquel on travaille.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, ça sort pas de n'importe où. Effectivement, j'ai perdu mon père. Effectivement, la dépression mélancolique, je sais ce que c'est. J'ai été dévastée par cela au mi-temps de la vingtaine. Et le deuil, ben, comme nous tous, oui, j'en ai une expérience personnelle. Pour écrire Saturne, j'ai été assez guidée par cette phrase de Strindberg dans Le Songe qui dit que tout est possible et qu'on se sert d'un matériau insignifiant qui est le nôtre au départ, mais qu'à partir de cela, on va broder, vous voyez, tout un tas de choses, des paysages. Alors certes, bien sûr, le deuil et la mélancolie, c'est la maladie de la vérité aussi. Hein, quand on perd quelqu'un, quand on est affligé par un deuil, on est malade de la nudité de l'existence, de cette douleur-là. Là, bien sûr, mais la seule chose qui compte pour moi, c'est tout de même la fiction, la littérature.
La psychanalyste se tait dans sa pratique, hein, et l'écrivaine parle. Comment est-ce que communique votre travail justement de psychanalyste et d'écriture romanesque?
Il ne communique pas.
Et comment c'est possible?
Ah, vous savez, peut-être que d'une infortune ou d'une... on finit par faire un avantage, c'est-à-dire que je ne suis absolument pas psychanalyste quand j'écris, je suis pas du tout dans le savoir, je suis tout à fait démunie. Je suis peut-être, quand j'écris, cet enfant que je ne cesserai jamais d'être jusqu'à ma mort, c'est-à-dire celui qui ne parlait pas, certes, qui se taisait et qui a trouvé dans les livres des compagnons de solitude. Et voilà, je suis cet enfant-là qui écrit pour... On se fabrique des fictions quand on est gamin, et moi, assez tôt, je me suis raconté quel ultime geste d'écriture de mon père, puisque c'est les derniers jours de sa vie, il ne pouvait plus parler, donc il écrivait sur une ardoise. Et qu'à cet ultime geste d'écriture, j'allais tenter de répondre par l'écriture. Mais la psychanalyse, c'est un masque social. C'est mon travail. Il est assez dommage et réducteur que l'on définisse les gens par leur travail. C'est un travail que je fais de façon très engagée, certes, mais c'est juste mon travail. Le fond de l'être, c'est l'écriture.
Non, mais la psychanalyse, c'est aussi des textes, c'est aussi une culture, c'est aussi un savoir, c'est aussi un rapport justement au récit, à la voix, à... Vous parlez de vous avez dit ces deux mots, deuil et mélancolie tout à l'heure. Il n'est pas possible de ne pas les rapprocher du texte de Freud qui s'appelle justement comme ça. Donc, il y a bien cette culture-là en vous.
Oui, il y a cette culture-là, mais je tente de m'en absenter tout de même radicalement parce que je suis pas du tout en position de savoir quand j'écris. Justement, je ne sais pas. C'est très énigmatique et Saturne, ça part de ça, justement, l'absence d'image. Il y a un homme qui meurt, il meurt très jeune, scandale atroce, scandale banal, et on ne sait rien de lui, on n'a jamais rien su de lui. Donc dès lors, il va falloir tout de même écrire sa vie, en sachant que toute tentative de recomposition du cadavre sera vaine, et que l'écriture ne réparera rien ni ne consolera de rien. Donc il n'y a pas de catharsis, si vous voulez, il n'y a pas de soulagement recherché. Donc en cela, pour moi, littérature et psychanalyse s'opposent tout à fait. Dans ma pratique, dans ma trajectoire.
Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on se lance justement dans cette reconstruction ou reconstitution, qu'on redessine son père, vous venez de dire le cadavre. Comment s'y prend-on ?
Je ne sais pas, c'est arrivé à un moment comme cela. Il y a eu une rencontre avec une femme à Genève en 2019. Ça ressemble à une mauvaise blague parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question des fantômes. Et puis elle se présente à moi comme ça en me disant « Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous reconnais parce que vous avez le sourire de votre père et j'ai connu vos grands-parents, votre père et votre oncle pendant la guerre d'Algérie. » Là, le sol se dérobe sous mes pieds, comme quand la vie devient trop grande pour nous. Et passé la sidération, je me suis rappelé ce qu'au fond, je ne savais que trop, qu'il fallait que je raconte ces histoires-là, les histoires que l'on trouve dans Saturne.
Vous le saviez que trop, pourquoi ?
Parce que c'est une mémoire sans souvenir. Vous voyez, quand vous perdez quelqu'un si jeune que vous ne vous souvenez pas l'avoir vu ni vivant ni mort, hein, c'est ce que dit Pérec dans W ou le souvenir d'enfance, c'est que tout est masqué par un voile et que vous avez beau tenter de le soulever, il n'y a rien. C'est-à-dire c'est du rien qui débouche sur du rien qui débouche sur du rien. Donc c'est à ce moment-là que commence le travail de la fiction, mais avec un travail d'enquête rigoureux tout de même. C'est-à-dire que quand il a fallu raconter comment s'est édifiée la médecine dite de colonisation en Algérie au moment où la France de Charles X se lance dans les conquêtes, eh bien, il fallait tout de même une documentation rigoureuse. Idem pour les événements de cette guerre qui a mis longtemps avant de dire son nom. Il fallait tout de même s'appuyer sur des documents.
Oui, on va revenir à l'Algérie. Et là, permettez-moi de revenir justement sur ce moment, cette rencontre avec cette femme à Genève, elle aurait pu se produire bien avant ou bien après. Est-ce que vous pensez que vous n'auriez jamais écrit ce livre sans elle ? Qu'est-ce qu'elle déclenche finalement ?
Peut-être qu'il fallait d'abord en passer par l'écriture d'autres textes comme Les Enténébrés, dans lequel je tournais autour du trou. Hein ? Là, avec cette rencontre, à la suite de cette rencontre avec cette femme à Genève, c'était le moment d'aller dans le trou, d'être là, dans la perte radicale, d'écrire depuis la tombe, dans la tombe. Alors dit comme ça, ça a l'air tout à fait sinistre, mais il fallait ne plus tricher et aller au plus près de cette question du deuil et de nos vulnérabilités face au deuil.
Dans Les Enténébrés, vous parliez plutôt de la famille de votre mère, un peu. Enfin, de votre mère, je dis toujours de vous, comme si vous correspondiez exactement à vos personnages, ce qui n'est pas du tout forcément le cas. Mais et là, ce serait un peu l'autre, disons le livre du père, mais on a l'impression que vous ressortez un peu d'un, pas de la tombe ou du tombeau, même si certains peuvent y tomber hein, dans le livre, mais comme d'un lac très sombre où vous émergez, comme ça, vous faites émerger cette figure paternelle d'un magma qui n'est pas du souvenir, mais qui est néanmoins une présence très forte, un sentiment, l'écriture, et surtout de l'amour que les autres portaient à ce père.
Oui, c'est-à-dire que c'était un homme qui a eu une vie d'homme avec ses médiocrités, ses grandeurs, ses faiblesses, une vie très brève. C'est pour cela que le livre est assez court, parce qu'il est mort très jeune, vous voyez. Et donc, il fallait raconter tout cela comme un précipité. Ça va très vite. On passe de l'Algérie à la France des années 60, aux années 70, le moment de sa rencontre foudroyante avec cette fille perdue, Ève. Et il ne fallait pas s'attarder. Il fallait traverser tout cela, justement, comme on traverse un lac au galop. Parce que si on s'arrête un seul instant, eh ben, on tombe justement dans ce magma du lac dont vous parlez.
Dans une de ces, disons, deux parties qui composent le livre, hein, la seconde qui est plutôt consacrée à vous, à ce moment où ce passé vous rattrape, puisque, et je continue à dire vous comme s'il s'agissait réellement de Sarah Chiche et non pas de son personnage, vous affrontez une très profonde dépression mélancolique. Et qu'est-ce qui fait que là, l'écriture n'est pas apparue à ce moment-là, justement, que c'est pas après cette dépression que vous êtes déjà plongé dans le récit hein, de ce qui l'avait causé, ou de ce qui apparemment aurait pu l'avoir causé.
Dans le fond du trou de la dépression, de la mélancolie, il est impossible d'écrire, il est impossible de regarder quoi que ce soit. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de langage. Tout devient visqueux, justement, on est dans le magma du noir du lac. Tout est hors langage. Je n'ai pas ressenti la nécessité, immédiatement après ce qui m'a foudroyée, de l'écrire parce qu'il était exclu d'en porter témoignage. Vous voyez, la littérature, c'est pas un journal clinique. C'est-à-dire que certes, il fallait faire entendre dans Saturne ce qu'est l'essence du deuil mélancolique et comment certains d'entre nous se laissent mourir avec leur mort dans leur mort, mais... Désolé, on ne va pas raconter tout ce qui nous est arrivé, nos petits malheurs, nos grandes douleurs, on en a tous, ça n'intéresse pas la littérature. Donc, j'ai laissé passer du temps.
Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce que vous avez appris de cette personnalité, de ce père, quand vous êtes penché sur lui, un peu comme vous avez dit, un enquêteur ou quelqu'un qui rechercherait, ou un peintre qui dessinerait d'après les souvenirs des autres? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus de cette personnalité que vous découvriez en écrivant?
Je dirais peut-être que je n'ai rien appris parce que je l'ai toujours déjà su, mais c'était un savoir qui n'avait pas de mots. Ce qui est certain, c'est que depuis l'écriture de ce livre, il est encore plus avec moi en permanence et à la fois je suis encore plus seule, mais c'est une solitude heureuse, joyeuse. Il y a dans Saturne cette idée que quand tout est perdu, on n'a plus rien à perdre et que donc, voilà, noirceur peut-être, mais noirceur lumineuse et joie malgré tout, grande joie d'être au monde malgré nos douleurs et nos pertes. Ce que j'ai appris de lui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai appris de lui, mais tout de même, il s'est passé des choses assez curieuses. C'est que, bien qu'on soit dans la fiction, j'ai écrit cet enterrement, cette scène d'enterrement de mon père, sans y être allée, parce que j'avais 15 mois quand il est mort. Et à la suite de la parution de Saturne, il y a une personne qui m'a écrit et qui m'a dit « Écoutez, j'étais à l'enterrement de votre père, et c'est absolument sidérant, vous l'avez décrit tel qu'il s'est produit ». C'est glaçant, c'est terrible, c'est à la fois magnifique, c'est les effets, tout y était, l'imam et le rabbin, la gifle donnée, tout. Alors comment expliquer ces choses-là? Je ne le sais pas, il y a des choses qui restent tout à fait énigmatiques, mais les pouvoirs de la littérature, décidément, m'étonneront toujours.
قداش قلبي معذب وقداش مازالي قاسي قداش قلبي معذب وقداش مازالي قاسي واللي عملته بيدي يا عباد الله واللي عملته بيدي يا عباد الله مكتوب مكتوب في جبل راسي
Saturne, il est aussi question de l'Algérie avant l'indépendance. Et vous mentionnez le cher Raymond Léris, grand musicien juif qu'on vient d'entendre, nous chanter « Mon cœur est meurtri » et pour combien de temps encore ?
Oui, son assassinat en juin 61 a vraiment marqué un tournant puisque du jour au lendemain, toute la communauté juive de Constantine et une partie de la communauté juive d'Alger a décidé de partir. C'était un homme extrêmement érudit qui considérait les Arabes comme leurs frères et qui, voilà. Et donc bien des individus se sont dit que puisque on avait tué le frère des Arabes, on allait s'attaquer à eux ensuite. Donc ils sont partis. Je ne suis jamais allée en Algérie jusqu'à ce jour. Donc ce que je connais de l'Algérie, c'est que ce que ma grand-mère paternelle m'en a raconté. Et très tôt dans l'enfance, j'entendais dans sa voix beaucoup de mélancolie et une douleur qui n'arrivait pas à se tarir. Quelque chose du pays perdu, de cet exil, du cadavre de la perte. Donc ce sont mes premiers souvenirs de l'Algérie par la parole de la grand-mère. au moment d'écrire ce livre. Donc voilà, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages, de documents sur donc la médecine de colonisation, dite de colonisation en Algérie, comment s'étaient déroulés ces événements, comme on les appelait et comme on les a appelés pendant longtemps. J'ai regardé des vidéos également, des vidéos d'archives. J'ai également retrouvé des coupures de presse. Il importait d'être tout à fait exact et le plus rigoureux possible, tout en plongeant les personnages dans un climat, vous voyez, c'est toujours un peu onirique, c'est-à-dire ils sont toujours déjà un peu morts, bien que terriblement vivants. Donc, on les regarde depuis la perte, depuis l'exil.
Ces personnages, vous parlez de la famille de votre père, justement, parce que c'est aussi un livre qui est le portrait donc d'une famille de médecins. Et là encore, vous travaillez sans doute à partir d'un matériau qui est familial, auquel vous aviez immédiatement accès.
Immédiatement, disons que, vous savez, c'est quand tout le monde est mort, il ne nous reste que des débris, des objets usés par les années, des lettres, les souvenirs de ce que la dernière personne qui pouvait nous parler de ce temps-là a bien pu nous raconter, mais il y a très très longtemps. Donc à partir, tout est fiction, tout est fantôme en fait. Et donc à partir de ces fantômes-là, j'ai tenté de reconstituer un matériau pour raconter aussi l'histoire de l'édification d'un grand empire médical, d'abord dans l'Algérie, pendant juste au moment de la guerre, et puis ensuite en France. Où on va suivre les traces de cette famille de médecins, donc dont l'aîné Armand va vouloir suivre les traces de son père et devenir à son tour un grand médecin et un grand patron de clinique. Le cadet Harry, lui, est tout à fait autre, beaucoup plus taiseux, rêveur, différent et donc non conforme à son milieu.
Oui, c'est aussi une histoire d'affrontement, enfin, en tout cas, et peut-être pas jusqu'à la haine, mais pas loin. Hein.
C'est Caïn et Abel, un petit peu, quand même. Si vous regardez la scène où les deux enfants jouent en Algérie, voilà, dans leur chambre, ils sont très heureux, et puis à un moment donné, il y a une dispute, un affrontement, et on ne sait pas d'ailleurs lequel des deux frères en vient à taper l'autre. J'ai voulu laisser cela dans l'énigme, ils se disputent pour un louis d'or. Hein, c'est-à-dire à savoir pour l'amour du père, mais aussi pour la richesse et pour l'héritage.
Et qu'est-ce que c'est que la fiction dans ce cas-là pour vous? Comment est-ce que on joue dans cet interstice entre ce que vous avez appris par la documentation, ce que vous savez de votre propre récit familial et le résultat qu'est Saturne? À quel moment et de quelle façon se mettent les mots là-dessus?
Pas un hasard si j'ai été une grande lectrice de Fernando Pessoa, vous l'avez compris, qui sans cesse s'est absenté de lui-même, à la fois se diffractant en identités multiples et en différentes formes d'écriture. Rigueur historique pour ce qui est de raconter voilà l'Algérie ou comment ça se passait juste avant mai 68 dans les facs de médecine, très important. Et pour le reste, tout est fantôme. Au fond, Cette hantise qui m'a frappée dans l'enfance, parce que voilà, j'ai perdu quelqu'un que je ne me souvenais pas avoir connu ni vivant ni mort, ça crée donc les conditions d'une hantise et aussi les conditions d'une écriture, et donc les conditions d'un rapport à la réalité. Je ne crois pas beaucoup à mon existence, le seul lieu où je me loge, c'est l'écriture. C'est vraiment dans le corps de l'écriture que je suis. Et c'est ainsi que se constitue le rapport entre la réalité et la fiction. Puisque quand vous avez un père qui a toujours déjà été une fiction et une mère qui a fait de sa vie une fiction, hein, pour se protéger de traumatismes et d'abus divers, bien vous-même, voilà, vous naviguez comme vous pouvez au milieu de tous ces récits. Et c'est peut-être pour ça qu'on devient écrivain.
Et donc vous vivez au milieu des fantômes, vous travaillez avec des fantômes, donc ce sont plus des êtres sans chair plutôt que des pantins. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les personnages du tout comme des éléments que l'on peut construire, manipuler d'une façon très précise, mais plutôt comme des êtres, oui, fantomatiques certes, mais en tout cas doués presque d'une existence propre.
Oui, alors dans Les Enténébrés, j'avais essayé quand même de faire monter sur scène différents personnages et j'aime beaucoup Kleist et donc l'idée de les faire surgir comme cela et de les faire commettre des actes qu'ils n'arrivaient pas à penser eux-mêmes était importante. Dans Saturne, c'est beaucoup plus fantomatique en effet. tout est beaucoup plus mouvant. Ce château, par exemple, dans lequel cette famille se retrouve après l'exil algérien, au moment où ils ont quitté la Méditerranée, on comprend qu'ils sont déjà des fantômes de leur vie. Et que même en étant très joyeux, même en vivant dans l'opulence, en mangeant beaucoup, en dépensant beaucoup d'argent et en faisant beaucoup de cadeaux autour d'eux, voilà, ils sont déjà tout à fait morts.
Est-ce qu'il y a une... pas une résilience, mais en tout cas une consolation dans la littérature? Est-ce que dans les mots, on trouve quelque chose qui est de l'ordre justement de la consolation?
Dans l'écriture, je ne trouve aucune consolation ni aucune réparation. Comme lectrice, cependant, oui, j'ai pu trouver dans des livres de Fernando Pessoa, de Marguerite Duras, quand j'étais plus jeune. Oui, j'ai pu trouver dans bien des livres de la consolation et un sentiment d'exister que je ne ressentais pas moi-même. Et au fond, c'est en les lisant que a pu s'asseoir davantage mon sentiment d'être au monde et ma joie d'être au monde. Donc oui, une forme de consolation.
Donc oui, c'est un livre à la fin qui nous amène vers la joie. Je crois, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu. Et Sarachi, vous êtes un peu une espèce de d'hétéronyme de vous-même. Vous avez l'impression que vous êtes comme ça plusieurs personnages à la fois.
C'est possible, oui. C'est possible. Et cependant, il est vrai que c'est le livre où je suis allée le plus au bout. Au cœur de ce noyau noir, hein, ce noyau d'enfance, ce noyau de solitude, mais ce noyau de joie. Et la fin du livre pointe vers ça. C'est la grande route vers laquelle on part seul, mais avec tous les autres soi-même et les autres ceux qu'on aime.
Merci beaucoup, Sarachi. Je rappelle que Saturne est paru aux éditions du Seuil. Commémorons ces jours-ci les 50 ans de la mort de Jean Giono, qui nous quitta pour rejoindre la Provence éternelle le 9 octobre 1970. Giono, qui prend chaque fois plus de place dans le panthéon des romanciers du XXe siècle. Giono, magicien du verbe et de l'exploration d'une région précise. Les maquis et les garrigues pierreuses et ventues autour de Manosque, mais grand amant aussi d'auteurs comme Virgile, auquel il consacra une anthologie. Il dira dans une lettre « Un Virgile subjectif au point qu'il ne parle que de moi, et qu'on ne voit Virgile qu'à travers mes artères et mes veines, comme on apercevrait un oiseau dans les branches d'un hêtre. » Il se passionnera aussi pour Herman Melville, dont il a traduit le « Moby Dick » et célébré l'œuvre dans « Pour saluer Melville », récemment reparu dans la belle collection « L'imaginaire » des éditions Gallimard. Pour saluer Giono, saluons donc Melville à la stature de Cachalot et aussi, au passage, son ami Walt Whitman. La France vient d'être bouleversée par les événements de 1848. Dans toutes les classes sociales du peuple des États-Unis, on s'exalte avec les Français. C'est un amour exclusif et passionné. On en parle et on en discute partout. Tout est interrompu, tout est enchanté. Soudain, parfois, un bal s'arrête. Les musiciens ne pensent plus à jouer. Les femmes se taisent et respirent plus vite qu'elles n'ont jamais respiré. Les hommes assurent solidement leurs talons au fond de leurs bottes. On en parle. On en parle partout. À l'atelier, dans la rue, sur la route, dans les champs, dans la ferme, dans les diligences, dans les forêts perdues. Et tous les cavaliers solitaires, quand le vent du soir fait flotter leurs manteaux, galopent en rêve au milieu d'une extraordinaire liberté humaine. De tous les côtés, des hommes se dressent, les dents serrées, les yeux enivrés, les cœurs donnés, avec leurs faux, avec leurs tenailles, avec leurs cravaches. Ce sont des hommes purs. Une impureté les tuerait plus sûrement qu'un coup de pistolet. Liberté est un mot qui engage toute leur vie, leur amour et leur œuvre. Grandeur allume des feux dans leurs yeux et dans leurs paroles. Les jeunes hommes fuient les filles pour parler entre eux de démocratie et des droits de l'individu. Ils sont tous amoureux de la France. À la fin de son poème, qu'il va intituler « France », Whitman appellera la France « ma femme ». « I will yet sing a song for you, ma femme », parce que c'était la terre de la liberté.
France Culture, la salle des machines, Mathias Sénard.
Bienvenue Victor Pouchet. Y a-t-il du Jean Giono en vous, ou plutôt dans vos livres ?
Je ne sais pas très bien, je l'ai lu il y a très longtemps. J'ai un souvenir très intense de Regain qui m'avait fasciné. Mais j'en ai pas une lecture très récente, sans doute, si les traces de Giono sont là, elles sont distillées.
Victor Pouchet, après un premier roman en 2017, Pourquoi les oiseaux meurent, vous publiez un second roman troublant, toujours aux éditions Finitude, un roman qui figure dans la liste de la sélection des romans de la rentrée France Culture L'Obs, au magnifique titre de « Autoportrait en chevreuil ». Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un roman d'amour ?
Oui, en tout cas ça commence par une histoire d'amour, l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Avril et qui rencontre un jeune homme, Elias, et ce jeune homme lui échappe sous la forme d'une énigme. Et voilà, donc il y a quelque chose comme un roman d'amour qui lance le livre en tout cas.
C'est un format moyen, 20 cm de haut pour 13,5 de large, 176 pages d'un beau papier légèrement ivoire, qui transparente un peu, composé dans une police française et un corps assez petit. Les pages ont un bel œil. Au bas du dos, on trouve l'animal, dont on suppose qu'il s'agit d'une chouette, totem des éditions girondines Finitude. Le premier plat porte en tête un bandeau bleu marine, sur lequel, réservé blanc, on lit le nom de l'auteur, Victor Pouchet. Et le titre, en orange, Autoportrait en chevreuil. Tout le reste est couvert par une image bariolée, blanche, bleue, verte, jaune et marron, représentant un chevreuil dans la neige, passant vers la droite, sous un sapin chargé de neige. On pourrait croire au premier abord que cette image est pixelisée, qu'elle est mal imprimée. Mais l'œil remarque vite qu'il est en présence d'un modèle de canevas, un de ces tissus imprimés qui, autrefois, tendu sur un cadre, servait à broder avec des fils, donc blanc, bleu, vert, jaune et marron, des paysages réputés merveilleux. Victor Pouchet, qui sont Elias et Avril ?
Elias et Avril, ce sont deux êtres qui se rencontrent et qui, au départ, ne se connaissent pas vraiment. Et Avril est une jeune fille assez légère qui va croiser la route de ce garçon qui a une trentaine d'années et qui a l'air à la fois passionnant, mais en même temps a l'air de résister, d'être craintif, d'être comme... blessé ou ébréché par quelque chose qui joue comme un drame et qui l'empêche de vivre pleinement. Et Elias, en fait, a été marqué, on va l'apprendre parce que Avril l'incite à raconter son histoire dans la première partie. Cet Elias a été marqué par une enfance un peu hors norme puisqu'il a été élevé, éduqué par un père médium magnétiseur avec un certain nombre d'exercices, d'habitudes assez étranges, d'exercices qui tentent de le purifier des ondes. Et donc, cette enfance va le marquer, va contaminer toute son existence.
Comment construit-on un personnage ? Par quoi commence-t-on dans ce cas-là ?
Alors en fait, le livre en entier a commencé lorsque sur un chemin en Bretagne, je marche avec deux amis régulièrement depuis maintenant 9 ans, on a entamé un tour de France. Donc on marche sur ce chemin par étapes. Et il y a 3 ans, marchant sur ce chemin, on s'arrête dans un endroit assez beau, dans une forêt bretonne. Autour des menhirs, on croise un type assez bizarre qui a branché divers appareils électroniques. Qui manipule des objets en bois, des objets en fer. Et on l'interroge et ce type nous raconte qu'il est magnétiseur, qu'il est en train de capter les ondes scalaires autour de ses menhirs. Et j'ai passé 2 heures avec cet homme et un peu plus tard, je suis rentré chez moi et je me suis dit, j'ai croisé un personnage. Et ce personnage, peut-être, ce qui m'intéressait, c'était moins ce magnétiseur en lui-même, mais le fils du magnétiseur. Qu'est-ce que ça ferait d'être élevé par quelqu'un, nourri par ses croyances, par un discours à la fois très organisé, en même temps évidemment très délirant. Et le livre est né au moment où j'avais à la fois ce personnage et j'ai relu une série de notes. Je prends des notes dans des carnets, de phrases, de paragraphes. Et parmi ces phrases, il y avait « L'animal le plus dangereux, c'est le chevreuil. » Tu l'entends ?« L'animal le plus dangereux, c'est le chevreuil. » Et d'un coup, je me suis dit que cette phrase que j'avais noté quelques mois auparavant, elle avait peut-être été formulée par ce personnage, par cette personne que j'avais croisée. Et l'intersection de ces deux choses a donné l'élan pour que le livre s'écrive. J'avais un magnétiseur et le fils du magnétiseur et je me suis laissé emporter par ce que pouvait être cette enfance et cette vie.
Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est qu'un magnétiseur justement ?
Un magnétiseur, alors c'est ce personnage est à la fois magnétiseur, médium, coupeur de feu, guérisseur. Ce sont des emplois, des pratiques en fait qui existent depuis des centaines d'années et dont qui sont encore très très vivaces en fait en France et ailleurs. Un magnétiseur, c'est quelqu'un qui croit dans l'influence des ondes, dans l'influence de l'invisible. Ce qui m'intéressait, c'était à la fois cette figure du magnétiseur, mais la figure de la croyance surtout. Qu'est-ce que c'est que de croire à des choses qui sont à la fois des choses et aussi des mots? Et donc, moi, je suis parti sans connaissance, a priori, des magnétiseurs, mais un peu comme ce que disait l'abbé Pluche, ce littérateur du 18e, je ne connais rien à ce sujet, j'ai envie d'en faire un livre. Et donc, j'avais cette fascination, j'étais un peu aimanté par cette figure du magnétiseur. Et j'ai tourné autour et je l'ai regardé comme aussi un enfant regarde le magnétiseur, c'est-à-dire sans tenir le discours direct du magnétiseur, mais qu'est-ce que c'est que croire que eh bien on peut se purifier des ondes en s'immergeant dans des lacs de grand froid, qu'est-ce que c'est que de croire que eh bien des ondes traversent l'espace et ont des influences sur nos vies. C'est ça qui m'a intéressé.
Donc Elias, donc le premier narrateur de ce livre, on verra qu'il y en a 3. Elias nous raconte donc son enfance auprès de son père, ce magnétiseur, famille recomposée. Et ce qui est très malin, je trouve, c'est qu'il y a un autre exemple d'enfant qui lui ne suit pas les mêmes, on va dire, les mêmes chemins qu'Elias, qui est Anne.
Oui, en fait, c'est donc une famille recomposée. Donc Elias a un petit frère, un demi-frère, et ces deux frères vont. C'est un livre aussi sur la transmission. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce que des parents nous apportent comme obsession, comme enseignement, comme théorie. Il y en a un des deux, Elias, qui va rester à distance ou en tout cas qui va à la fois être imprégné et en même temps ne jamais complètement adhérer à ces croyances de magnétiseur. Et l'autre, ce petit frère Anne, va être celui qui va suivre la voie un peu, qui va peut-être avoir l'espoir de reprendre le flambeau, le secret, d'être celui qui sera à son tour le magnétiseur. Et ces deux formes d'héritage m'intéressaient. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment cette question de voilà, qu'est-ce qu'on reçoit de ses parents. Et là, c'était des croyances dans le magnétisme, mais ça pourrait aussi être, je sais pas, il y a des parents qui éduquent leurs enfants avec l'espoir d'en faire un champion de tennis ou d'en faire un petit génie des maths ou que sais-je. Et à chaque fois, on réagit, on reçoit des choses et on essaie aussi de s'en échapper. Et ce que je voulais raconter, c'est une tentative d'évasion, un manuel d'évasion à usage unique. Comment est-ce qu'on s'échappe aussi de cette enfance et de tout ce qui s'inscrit?
Mais c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui fait que le personnage d'Elias, justement, lui, s'éloigne, en tout cas résiste, hein, à ses croyances, le magnétisme, on voit qu'il a cette capacité à s'en détacher, alors que son demi-frère, lui, absolument pas.
Je sais pas très bien. Je sais pas très bien dire. Ce qui est sûr, c'est que il a essayé de comprendre tout cet enseignement qui lui venait, toutes ces croyances qu'on lui imposait plus ou moins violemment. Et lui, il va se faire peut-être d'autres théories. C'est peut-être ça qui va le protéger. Elias, c'est un garçon qui, pour mettre un peu d'ordre dans ce chaos, en permanence se construit des théories. Et moi, c'est mes théories, en fait, que j'ai mis dans ce livre. C'est-à-dire, j'ai un fichier dans mon ordinateur qui est théorie majeure sur l'existence, où je note les théories qui me permettent de rendre ce qui nous entoure un peu plus ordonné, provisoirement ordonné. Donc, par exemple, Elias va se croire dans la théorie de l'âge éternel, par exemple, l'idée que on a un âge qui est notre âge carrefour auquel on se retrouve toute notre vie. On peut avoir 62 ans, mais en réalité, on a 16 ans, c'est-à-dire qu'on a l'énergie d'un jeune homme, le désir de plaire d'un adolescent. Donc, il se construit, je vais vous dire toutes mes théories sur l'existence, mais...
On en veut quelques-unes, en tout cas.
Oui, il y a cette théorie de l'âge éternel, il y a l'idée de l'histoire des larmes, par exemple. On pourrait se raconter sa vie en alignant toutes les scènes de larmes qu'on a vécues, les larmes obligées, les larmes naturelles, les larmes mécaniques, les larmes du fond de la gorge quand quelque chose d'étonnant nous arrive, les larmes à plusieurs, et... Voilà, il y a toute une série comme ça de théories, et je pense que ce qui permet à Elias peut-être de s'échapper, c'est qu'il oppose aux théories paternelles ses propres théories, son propre regard sur le monde. Et en même temps, il adopte aussi ces théories, donc il ne s'en tire pas complètement, enfin on s'en tire jamais complètement, je crois.
Oui, mais j'avais justement l'impression que c'était aussi le geste d'écrire, c'est-à-dire le fait de raconter lui-même sa propre histoire, qui lui donnait aussi ce recul sur sa propre existence, qu'il faisait s'éloigner de ses ondes, finalement.
Oui. En effet, le livre commence par l'invitation que lui donne Avril à raconter, à essayer de se libérer en notant. Et l'image qu'elle prend, c'est une image d'un ancien rite tzigane qui dit, qui veut que à la mort d'un homme, on met toutes ses affaires dans la caravane et on les brûle. Et ce que pourrait faire Elias en racontant, c'est ça, c'est mettre toutes ces traces d'enfance, toutes ces souvenirs dans sa caravane et les brûler. Écrire serait ce geste un peu de brûlis où à la fois on efface tout ce qui alourdit un peu tout ce qui pèse sur les épaules, et en même temps en effaçant et en brûlant, c'est toujours une façon de créer de la terre vierge qui est plus fertile après.
Et Avril, alors, comment voit-elle justement, elle, ses ondes, sa relation avec Elias, et justement toutes les théories de qui sous-tendent un peu la pensée et la vie d'Elias?
Avril, je crois qu'elle... je l'ai voulu, et j'ai donc la première partie, c'est le récit d'Elias, la deuxième partie, c'est le journal d'Avril. Et Avril, elle essaie de comprendre cet être fuyant. Donc, elle est à la fois charmée par Elias, et en même temps, il y a quelque chose qui résiste. Mais comme il y a quelque chose qui résiste toujours dans notre compréhension des autres, on ne comprend pas les autres. Les autres nous apparaissent très souvent comme des vies sauvages, c'est-à-dire comme des êtres fuyants, comme des chevreuils ou comme tout autre type d'animal sauvage. Et Avril, elle est à la fois intriguée, et comme on l'est face à des gens fuyants, elle est aussi agacée. Elle tourne autour, comme on passe notre vie à tourner autour des autres qu'on essaie de comprendre, et encore plus des gens auxquels on est relié par un lien amoureux.
Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle, dans l'économie du roman, justement? Parce qu'elle est en fait entre deux narrateurs, entre l'histoire d'Elias lui-même, et puis une troisième partie.
Oui, je crois que c'est un personnage qui est plus ancré dans la vie, qui a une capacité à vivre au présent que n'a pas justement Elias. C'est-à-dire Elias est quand même travaillé par ses souvenirs, par un très grand nombre d'empêchements. Et donc Avril va apporter un autre regard de... Elle défend ce qu'elle nomme l'option légère, c'est-à-dire tenter de se saisir du monde en le traversant légèrement. Elias a du mal à traverser légèrement, et la forme du journal justement me permettait ça, parce que le fait qu'elle écrive son journal permet aussi d'assister à tout le flux de sa vie, aussi bien ce que provoquent les émotions de ses rencontres, les agacements au travail, mais aussi ce que ça fait, l'impression que les collants qu'on porte ne durent qu'un seul jour, que quand on sort de la piscine, bien nos cheveux puent le chlore. Et donc c'est quelqu'un qui a ce rapport beaucoup plus matériel, ancré dans la vie.
C'est aussi deux formes d'écriture différentes. Pour Avril, c'est le journal justement qui permet ce côté extrêmement matériel, extrêmement précis, qui fabrique déjà un personnage par sa voix.
Oui, moi j'avais envie donc il y ait trois formes. La troisième forme, on en parlera peut-être après, c'est le discours qu'adresse le père à Avril et qui résout aussi ce drame, cet accident majeur qu'on découvre dans la vie d'Elias et qui traverse le livre jusqu'à ce qu'on en ait la solution, une amorce de solution à la fin. Je voulais en fait qu'il y ait ces trois formes parce que ce que je disais tout à l'heure, on ne comprend pas les gens et donc on ne peut avoir que des versions, que des points de vue sur une personne. Et donc avoir trois voix et avoir aussi trois formes permet de tourner autour de ce mystère d'Elias et aussi des autres personnages, parce qu'on a ce que Elias pense d'Elias, ce qu'il pense d'Avril, ce qu'Avril pense d'Elias, ce qu'Avril pense du père d'Elias, et ce que le père d'Elias pense d'Elias. Donc ça permet de croiser tout ce rapport. Et je crois que c'est ce que permet aussi le roman, c'est-à-dire d'avoir une variété d'énigmes.
Et de les résoudre ou pas. D'ailleurs, Elias est en lui-même une énigme non résolue, finalement, et qui fabrique aussi de la poésie. Par exemple, Elias a ce moment où il explique, il fabrique des choses, puissance, par exemple, désordre, puissance, désordre, vertige, puissance, vertige, désir, puissance, désir, désir, puissance, vertige. Il croise comme ça des concepts pour les multiplier entre eux. Et ce qui donne une espèce de poésie justement extrêmement vertigineuse, et on imagine très bien ce tout jeune homme hein, qui est à peine sorti de l'adolescence en proie à une espèce de maladie imaginaire extrêmement conceptuelle.
Oui, je crois qu'il a une façon en effet de vivre, il le dit un peu plus tôt aussi, il se construit des cabanes de mots dans l'enfance, et un des premiers mots qu'il met dans cette cabane de mots, c'est le mot maboule que les gens répètent pour qualifier son père. Et à partir de ces cabanes de mots, il construit des murs de mots, des murs de phrases. Et je crois qu'on réagit un peu tous comme ça, c'est-à-dire qu'on se construit on récolte des citations, on récolte des images, des mots, des phrases. Pour trouver un refuge, pour trouver quelque chose qui nous permet aussi de vivre un peu.
Trouver un refuge, mais aussi il y a un désir quand même chez Elias de plaire. Hein. Il dit qu'il désirait justement que les femmes le désirent. Il a cette volonté de s'ouvrir aussi à autrui, c'est son intérêt pour Avril.
Oui, c'est la question amoureuse est centrale, et c'est peut-être aussi ça, pour répondre à une question précédente, ce qui lui permet d'échapper ou de s'évader, c'est cette recherche des autres et de l'amour des femmes.
Il dit, il a cette phrase magnifique, suivre le chevreuil dans nos forêts intérieures. Ça, j'ai trouvé ça sublime.
Oui, c'est cette figure du chevreuil, je crois que elle est vraiment à l'origine du livre, et moi elle m'a guidé en fait pendant toute l'écriture. J'ai vu plusieurs fois des chevreuils traverser mon champ de vision. Les chevreuils, ce sont parmi les animaux un des seuls qui ne peut pas vivre en captivité. C'est un chevreuil. Les chevreuils ne supportent pas la captivité. Ils ont ce caractère fuyant, et en même temps ils ont une forme de grâce qui rend leur fuite encore plus fascinante.
Oui, vous semblez croire à une espèce d'animal totem. En tout cas, lui, il en parle beaucoup. D'ailleurs, il cherche à découvrir quel peut être cet animal totem. Et donc, entre le magnétisme et l'animal totem, il y a quand même une vision un peu enchantée du monde, ou en tout cas extrêmement poétique ou imaginaire de la réalité.
Je crois que on est dans un monde où tout semble quadrillé, organisé, rationalisé. Et quand on voit justement ces formes de vie, ces animaux sauvages, un chevreuil traverser un champ ou un fou de bassin plongé dans la mer, on assiste à quelque chose qui... Enfin, moi, quand je vois ça, j'assiste à quelque chose de merveilleux. J'ai l'impression que c'est encore... ce qui reste de merveilleux aujourd'hui, c'est peut-être cette sauvagerie animale. C'est-à-dire, ce sont des animaux qui nous apparaissent comme des licornes ou comme des... ou que sais-je, qui nous apparaissent comme des énigmes, mais des énigmes sur la forme de l'évidence. C'est-à-dire qu'il y a une vie, il y a un désir de fuite. Et cette sauvagerie animale, elle produit un émerveillement... qui ne se défait pas en moi.
Est-ce que c'est comme une épiphanie, quelque chose qui vous apparaît?
Oui, c'est, enfin, il y a une grâce de l'ordre peut-être en effet de l'épiphanie. Il y a une sorte de surprise, et il y a aussi l'idée que l'idée d'une projection. Je repensais à ces dessins que faisaient les hommes des cavernes il y a maintenant 30 000 ans. Ils dessinaient déjà des animaux sauvages, des grands cerfs, mais aussi des tigres, des panthères. Et peut-être parce que il y avait déjà cette même fascination pour les formes de vie animale, pour ces énigmes qui résistaient, pour cette forme de liberté ou de fuite qu'incarnaient ces animaux.
Et aussi, on voit des animaux dans le roman, des animaux empaillés. Il y a la présence de l'hypnose, de la transe chamanique dans laquelle on peut pénétrer l'âme ou en tout cas la réalité de la vie animale.
Oui, alors ça c'est tout ce que le personnage du magnétiseur me permettait aussi de charrier, c'est-à-dire des croyances qu'il y a du dialogue et que qu'on fasse ou non une transe chamanique qui fasse apparaître à nous des animaux, on peut facilement rêver d'être un animal ou rêver de dialoguer avec un animal. Et je crois que en fait il y a aussi, je parlais d'une grande étrangeté, d'une grande énigme dans les animaux, mais il y a aussi une grande familiarité. On se sent directement au contact des animaux, et y compris les animaux les plus sauvages. On se sent aussi dans une forme de proximité qui nous permet de nous projeter en eux.
Mais est-ce que cette forme de communication, que ce soit entre Elias et Avril ou entre nous et les animaux sauvages, est-ce que justement c'est pas une forme d'illusion? En tout cas, le livre semble nous laisser un peu sur cette sensation-là.
Oui. En fait, tout ça résiste. Tout ce qui se joue dans l'invisible résiste. On aimerait comprendre les autres, on aimerait comprendre pourquoi est-ce que Elias ne supporte pas de rester seul au cinéma, pourquoi est-ce qu'il ne supporte pas de se baigner, pourquoi est-ce qu'il a l'air si empêché dans son existence. Mais en fait, on n'a pas de manuel pour décrypter les autres. Nadine Rothschild nous a expliqué comment se tenir à table avec un archevêque ou un notaire, mais pour savoir vraiment ce qui nous relie aux autres et comment les comprendre, on est simplement obligé de tâtonner, de tourner autour, de croire et d'essayer de comprendre ce qui se joue dans l'invisible. Et donc les autres nous apparaissent vraiment comme sous la forme de la vie sauvage. Et parfois on capte des choses, parfois on réussit à rentrer en contact, mais c'est, je crois, des moments qui sont très rares. Et donc le mot illusion est peut-être un peu fort, mais en tout cas il y a quelque chose qui continue à s'échapper.
Et notamment, enfin moi, celui qui me paraît échapper réellement, c'est le père. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, c'est celui qui a l'origine de tout pratiquement, mais qui lui-même, tel qu'il nous apparaît en tout cas dans son discours dans la troisième partie, là échappe, hein, et prend une tangente assez complexe, en tout cas tel qu'on le lit dans la troisième partie.
Oui, alors je tenais vraiment à ce que ce père qui, dans les deux premières parties, est regardé par les autres et n'a pas la parole, ait la parole. Et que donc c'est ce discours qui clôt le livre. Et prenant la parole, son image change aussi. On avait dans la première partie l'image d'un père assez dur qui éduquait son fils avec des principes, des exercices assez très très exigeants et même un peu farfelus, étranges, voire violents. Et dans la troisième partie, on se rend compte que ce père a aussi quelque chose de beaucoup plus aimant envers son fils, quelque chose d'une intelligence qui le relie et qui fait qu'il est peut-être à mes yeux moins fuyant qu'on ne l'avait pensé, ou moins dingue aussi qu'on ne l'avait pensé. Il y a quelque chose où l'on voit que il a tenté aussi d'éduquer et d'aimer son fils comme finalement tout un grand nombre de parents tentent de le faire avec leurs enfants.
Mais avec toujours des ondes autour de lui et avec lui dans le magnétisme.
Oui, mais alors c'est vrai que ça reste un magnétiseur, et je pensais ça tout à l'heure. Enfant ou même à d'autres âges de nos vies, il est possible que tous nos parents nous apparaissent comme des magnétiseurs, c'est-à-dire comme des gens qui parlent un langage bizarre, ont des rites, ont des obsessions. Alors certes, c'est un peu plus poussé dans le cas de ce personnage, mais il y a un moment dans l'enfance où ce que nous disent nos parents nous apparaît comme complètement absurde ou complètement illogique ou complètement inacceptable. Et donc on doit s'accommoder de ça.
Merci Victor Pouchet, soignons tous notre devenir chevreuil. Je rappelle que Autoportrait en chevreuil est paru aux éditions Finitude.
Merci beaucoup. Thank you.
On se souvient qu'autrefois, dans les paquebots et les cargos, de magnifiques transmetteurs d'ordre en cuivre faisaient résonner les instructions de la passerelle jusqu'aux entrailles du navire. Comme chaque semaine en fin d'émission, un message parvient jusqu'à la salle des machines pour partager une expérience d'écriture. Aujourd'hui, c'est Laure Gourège, dont le roman « La fille du père » est paru aux éditions POL.
Message de Laure à destination de la salle des machines. Je ne sais où vous voguez aujourd'hui, peut-être sur l'Atlantique. Nous n'avons pas eu de vos nouvelles depuis dimanche dernier. Ici, sur la terre ferme, l'atmosphère est lourde. J'ai menti. J'ai voulu écrire à mon père et j'ai écrit sur moi. J'ai cru parler de moi. J'écrivais d'autant plus sur mon père. Puis tout a été dit. Maintenant, j'essaye d'être entière après l'écriture. Or, je ne parviens pas à savoir ce que cela dit de moi d'avoir écrit sur lui. Il paraît que c'est courageux de dire à l'autre ce que l'on a tu pendant des années. Pourtant, je me trouve lâche de m'être adressée à lui en vous prenant comme témoin. Si lâche d'avoir tué mon père de cette manière. Je me demande, peut-on seulement ressusciter quelqu'un après le crime de l'écriture? Et moi, qui suis-je? Une meurtrière dont la vie n'est possible que parce qu'elle a volé celle d'un autre? Je n'en veux pas de cette liberté dérobée. Je préfère la fuite. Alors retrouvez-moi comme convenu, dimanche prochain au port, et soyez à l'heure.
C'était la salle des machines. Un grand merci à Céline Leclerc. Agnès Catou a réalisé cette émission avec l'aide de Marie le peintre à la technique aujourd'hui. Pour patienter jusqu'à dimanche prochain, retrouvez les épisodes antérieurs de la salle des machines sur franceculture.fr.